prends vos Bibles. Et si vous n'avez pas de Bible avec vous ce matin, vous avez sûrement reçu une feuille à la porte avec les notes. C'est marqué « Marcher dans la plénitude de Dieu ce matin », numéro 3. Parce que nous allons continuer une petite série qu'on a commencée il y a déjà 3 semaines sur comment marcher dans la plénitude de Dieu. Et que c'est bon. Il y a un verset qui n'est pas dans vos notes ce matin. Je vais juste commencer avec ça tantôt. Mais avant de faire ça, on va prendre notre Bible, on va prendre nos notes, on va faire une déclaration qu'on aime faire ici à la vie comblée. C'est important parce que on croit que qu'est-ce qu'on dit avec la bouche, qu'est-ce qu'on croit avec le cœur, s'accomplit. Hein? On va dire ceci, voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil. Est-ce que vous le croyez? On va le dire. Je ne serai jamais plus pareil. Mais je serai changé de gloire en gloire par la puissance de la parole de Dieu. Amen, amen. Moi, j'ai vraiment hâte de partager ce message ce matin. Je viens d'avoir, même dans mon cœur, dans ma vie personnelle, certaines révélations de la parole de Dieu qui sont en train de me transformer. Hein. Déjà, le processus est commencé, mais laisse-moi vous dire, c'est loin d'être terminé. Et je suis sûr, vraiment sûr et certain que si vous avez un cœur bien réceptif, que si vous recevez la parole avec un cœur humble, comme Jacques a dit, de recevoir la parole plantée dans votre cœur, avec douceur, la parole qui a le pouvoir de sauver vos âmes, je suis certain que ça va vous transformer. Donc, le verset qui était notre verset au texte clé depuis 3 semaines, c'était en Éphésiens chapitre 3. C'est pas dans vos notes, donc si vous n'avez pas une Bible avec vous, vous pouvez juste écouter, mais je vais le lire pour vous, en Éphésiens chapitre 3. À partir de verset 14, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Vous savez que nous avons tous un homme extérieur, mais le vrai homme, c'est l'homme intérieur. Et c'est là où le Seigneur veut nous fortifier en première place, n'est-ce pas? Et puis, il continue, verset 17, « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Et ça, c'est une prière qu'il prie pour les Éphésiens. Et son but, c'était qu'ils puissent recevoir l'exaucement de cette prière ici sur la terre. C'est pas une prière qu'il priait pour eux qu'ils allaient recevoir une fois au ciel. Mais il veut vraiment qu'aujourd'hui, qu'on soit puissamment fortifié selon l'homme intérieur, qu'on soit enraciné dans l'amour et qu'on puisse comprendre avec tous les saints vraiment l'amour de Dieu sur 4 dimensions. Toutes ces choses sont importantes. De savoir que Christ habite dans notre cœur par la foi. On a dit la semaine passée que Jésus, on pourrait dire, a déménagé. Il a fait de sa demeure dans notre cœur. Et quand il est arrivé, comme moi quand j'ai déménagé de la rue Saint-Onge sur la rue Topaz, j'ai amené notre stock et j'ai mis cela dans la nouvelle maison. Laissez-moi vous dire que c'est de la même façon que Jésus, il est arrivé dans votre cœur avec tout son stock. Toute sa nature, tout son caractère, nous avons reçu, en fait, selon Pierre, qu'est-ce que Pierre a dit, hein, que nous avons reçu tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Afin qu'on puisse, en fait, devenir participant de la nature divine. On est les enfants de Dieu. Et Dieu est en nous. Jésus est la tête du corps, mais nous sommes les membres du corps de Jésus-Christ. Nous sommes en lui et nous avons une nouvelle identité en Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux? J'étais autrefois un pécheur, mais je ne suis plus un pécheur. J'étais pécheur, mais j'ai été sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, pas à cause de ce que j'ai mérité, mais par la grâce de Dieu, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Mais la plupart des chrétiens marchent dans l'ignorance de qui ils sont en Jésus. On se voit comme des pécheurs. On se voit comme des bons à rien qui sont indignes de faire quoi que ce soit. Et dans nous-mêmes, nous sommes indignes parce que notre justice, qu'est-ce que nous avons mérité dans la vie, c'est l'enfer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si le Seigneur me donnerait qu'est-ce que je mérite, j'aimerais pas l'avoir. Mais c'est pas qu'est-ce qu'on a mérité qui est important, c'est qu'est-ce qu'on a hérité en Jésus-Christ. Et c'est là où Paul prie que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia! Et il ne faut pas se contenter d'un petit peu, une petite dose, on pourrait dire. Dieu veut nous remplir. Et en fait, il est marqué, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Vous savez qu'il y a une puissance qui agit en vous? Infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans tous les siècles, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez demander ou même imaginer. Et là, on sait que Dieu veut vous remplir de toute la plénitude de Dieu. On a parlé de cela la semaine passée, que Jésus, en lui, toute la plénitude de la divinité habite sous une forme corporelle, n'est-ce pas? Ça a plu au Père que toute la divinité habite en Jésus-Christ. Jésus est l'image visible du Dieu invisible, n'est-ce pas? Et toutes les caractéristiques de Dieu résident en Jésus-Christ. Jésus est vraiment glorifié aujourd'hui. Il est assis à la droite du Père. Jésus est le roi de l'univers. Vous êtes d'accord? Alléluia! Il est le Tout-Puissant. Mais en Jésus-Christ, la Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Avez-vous réalisé qu'est-ce que vous avez en Jésus? C'est pourquoi on a dit, je suis ce que la Bible dit que je suis. J'ai qu'est-ce que la Bible dit que j'ai. Et je peux faire qu'est-ce que la Bible dit que je peux faire. Donc, mais cette semaine, même la semaine passée, j'étais en train de méditer des choses dans la parole de Dieu. Et je me suis rendu compte de quelques principes qui ont vraiment fait une explosion de joie dans mon cœur quand j'ai commencé à réaliser comment ça fonctionne même. Parce que vous réalisez que Jésus aujourd'hui est glorifié, vous êtes d'accord? Tout pouvoir, toute autorité lui appartient. Mais quand Jésus est venu sur la terre, la Bible est claire que Jésus s'est dépouillé lui-même de sa gloire. Que Jésus, avant de devenir le Fils de l'homme, il était toujours le Fils de Dieu, mais avant de devenir le Fils de l'homme, Jésus était déjà glorifié avec le Père. Il avait une gloire au ciel, n'est-ce pas? En tant que Dieu, parce qu'il est Dieu le Fils. Mais quand il a pris une décision de se soumettre et de s'humilier en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes, la Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même de sa gloire. C'est-à-dire que même si Dieu le Fils était avec le Père, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et même si on sait que Dieu le Fils était omniscient, il connaissait toutes choses, il était omnipotent, il avait tout pouvoir, hein? Il était omniprésent, il était partout au même, hein? Toujours présent partout, à tout moment, même si toutes les caractéristiques de Dieu étaient en lui. Quand il a pris la forme d'un serviteur, il s'est dépouillé de ces choses. Et quand il est venu sur la terre, et quand il est né à travers l'œuvre de l'Esprit Saint, à travers la Vierge Marie, quand il est venu au monde, et quand il s'est mis dans la crèche, il n'était plus dans son état d'omnipotence. Il n'avait pas une omniprésence à ce moment-là. Il s'est limité dans un sens. Il a pris la forme d'un serviteur. Il voulait savoir même qu'est-ce que c'est d'être un homme. C'est pourquoi aujourd'hui, il peut compatir à nos faiblesses. N'est-ce pas? Il était tenté en toutes choses comme nous, mais jamais, il n'a jamais péché, n'est-ce pas? Mais je veux juste que vous sachiez que quand Jésus était dans la crèche Et quand Jésus marchait sur la terre, il marchait sur la terre comme un véritable homme. Il avait besoin de manger, comme vous et moi, nous avons besoin de manger. Avant de devenir homme, Jésus, le Fils de Dieu, n'avait pas besoin de manger pour exister, pour survivre. Vous êtes d'accord? Avant de devenir le Fils de l'homme, il n'avait jamais une occasion dans son existence en éternité passée où il était fatigué. Vous êtes d'accord? Parce que Dieu, qui est omnipotent, il n'est jamais fatigué. Pourtant, on voit en Jean chapitre 4 que Jésus, fatigué de son voyage, il a arrêté au puits de Jacob, il a demandé quelque chose à boire. Donc, on voit que Jésus, il a vraiment, vraiment pris sur lui-même, de son propre gré, par amour pour la race humaine, il a pris une décision de devenir semblable aux hommes, pour que dans le futur, on devienne semblable à lui. Là, en fait, la Bible dit qu'il s'est abaissé pour un peu de temps afin d'être glorifié plus tard. Donc, on dit tout cela pourquoi? Parce que même on voit que Jésus, il était respectueux à ses parents, mais la Bible dit que Jésus grandissait en stature, mais aussi en sagesse, n'est-ce pas? Intéressant, n'est-ce pas? Dans le sens, on voit que Jésus, même à l'âge de 12 ans, il était rempli tellement de sagesse, il grandissait tellement qu'il était capable d'enseigner et les hommes, les érudits étaient à l'écoute. Et moi, j'ai la conviction que Jésus, c'était un bon juif, n'est-ce pas, qui suivait à la lettre même la loi de Moïse, qui connaissait le Pentateuque et les Écritures, il connaissait ce qui était écrit dans la loi, il connaissait ce qui était écrit dans les prophètes, il connaissait ce qui était écrit dans les psaumes, parce qu'il a pris le temps d'étudier les Écritures comme un bon garçon juif. Vous savez que la plupart des juifs, vraiment ceux qui étaient des juifs qui suivaient les traditions juives, les garçons rendus à l'âge de 13 ans, était supposé d'avoir mémorisé les premières 5 livres de la loi. Donc, c'est sûr que c'était le cas avec Jésus aussi. Mais qu'est-ce qui est intéressant? C'est que je suis convaincu que Jésus, en grandissant, que quand il lisait les Écritures, il avait quelque chose de vraiment spécial. Qu'est-ce que les autres personnes avant lui n'avaient pas? C'est-à-dire que quand lui a lu Ésaïe chapitre 7, et ça parlait de la naissance d'un sauveur par une vierge, qu'il a eu une certaine révélation, n'est-ce pas? Il voyait que ça parle de moi. Il voyait en Ésaïe 53, il voyait toutes les prophéties, et il savait quand il lisait dans les psaumes que ça parle de moi. N'est-ce pas merveilleux? Jésus, est-ce que vous êtes d'accord que Jésus a reconnu dans les Écritures que quand les Écritures parlaient de lui-même, qu'il a reconnu? Absolument. Parce que, n'oubliez pas, il est le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Sa nature était toujours une nature pure. Il n'avait pas une nature pécheresse comme vous et moi, nous avons. Mais il a pris une décision de se dépouiller de sa gloire, de ne pas marcher sur la terre comme Dieu, mais de marcher sur la terre comme un homme. N'est-ce pas? Il était 100% homme, mais aussi 100% Dieu à la fois. Ça, c'est un mystère qui est difficile pour notre tête à comprendre, mais Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Mais maintenant, aujourd'hui, il est rendu au ciel, il est glorifié. Son omnipotence, son omniscience, tout cela, c'est pleinement là. Toute la divinité habite en lui corporellement, n'est-ce pas? Mais il est encore 100% Dieu et 100% homme, parce que la Bible dit qu'il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre l'homme et Dieu, et c'est qui? Jésus-Christ, l'homme. Donc Jésus est homme aujourd'hui, sauf que Jésus est Dieu, homme glorifié. Mais j'ai vu quelque chose et j'ai compris quelque chose, que Jésus réalisait l'importance des Écritures pour l'accomplissement de sa mission. Et que la parole de Dieu, les Écritures qui ont été écrites, tout ce qui était écrit par les prophètes, tout ce qui était écrit par Moïse dans la loi, tout ce qui était écrit par les psaumistes, toutes ces choses avaient un rôle important pour l'accomplissement de sa mission. Amen. Et en Luc chapitre 24, il y a une histoire. Et on va voir cela ici. Luc chapitre 24. Que même Jésus, après avoir donné sa vie à la croix, après avoir versé son sang, après avoir été enterré, il était ressuscité le troisième jour. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contents que Jésus ait ressuscité des morts? Mais on a une histoire que vous avez sûrement entendue à plusieurs reprises. De qu'est-ce qui s'est passé avec quelques disciples sur le chemin de Emmaüs. Vous vous rappelez de l'histoire? Luc 24, en commençant à verset 13. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha. Et n'oubliez pas que Jésus est ressuscité des morts, mais là, il est comme on pourrait dire déguisé dans le sens qu'il ne voulait pas être manifesté à ses disciples tout de suite. Et il fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? » L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? » Il joue en tout avec eux, n'est-ce pas, hein? Et il lui répondit, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. » Donc on voit qu'ils sont toujours un peu dans l'incrédulité, n'est-ce pas? Ils ne croient pas vraiment que Jésus est ressuscité. Et ils sont tout tristes. Mais regardons bien, parce qu'on va souligner quelque chose de super important aujourd'hui. Verset 25. « Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence. » On pourrait dire que ce n'est pas trop poli, mais c'est comme ça qu'il l'a dit quand même. « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire. » À croire quoi? Ce qu'ont dit les prophètes. En réalité, c'est comme Jésus, une fois avec les pharisiens, je crois, ils ont dit, « N'avez-vous pas lu? » C'est comme Jésus, il était étonné, « N'avez-vous pas lu? Vous avez les Écritures, il faut s'en servir, n'est-ce pas? Nous avons la Bible aujourd'hui, il faut s'en servir, n'est-ce pas? » Et je pense que des fois, le Seigneur pourrait nous dire aussi, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qui est écrit dans la Bible. » N'est-ce pas? Et puis il dit, « Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entra dans sa gloire? » Et commençant par Moïse, c'est-à-dire Genèse et tout le Pentateuch, et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc Jésus est là avec eux et commence à raconter la parole de Dieu. Les Écritures qui sont inspirées de Dieu, et il parle de ces Écritures, tout ce qui le concernait. En fait, Jésus connaissait les versets qui parlaient de lui. Et il expliquait ces versets à fond à ses disciples. N'est-ce pas merveilleux? Donc, regardons bien. Et il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, ils parurent vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut devant eux. Quelque chose, hein? Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin en nous expliquant les quoi? Les Écritures. Se levant à l'eux-mêmes, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Tout le monde dit, le Seigneur est réellement ressuscité. Pourquoi est-ce qu'ils savaient? Parce qu'ils ont eu une rencontre avec Jésus et parce que Jésus leur a donné, en fait, a ouvert leurs yeux pour comprendre les Écritures aussi. Et il est apparu à Simon et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Donc, il y a des choses qu'on veut souligner ce matin qui vont vous aider parce que Jésus avait une mission à accomplir sur la terre. Vous êtes d'accord? Mais je veux que vous sachiez que vous aussi, vous avez une mission à accomplir sur la terre. La mission de Jésus était directement liée à qu'est-ce que les prophètes, qu'est-ce que Moïse et qu'est-ce que les psalmistes ont écrit à propos de lui. Jésus avait besoin, pendant sa vie, en grandissant, de lire ses Écritures et de comprendre ses Écritures et au moment donné même de déclarer ses Écritures et d'expliquer ses Écritures aux autres pour que le plan de Dieu pour et la mission de Dieu pour sa vie soit accomplie. C'était lié directement à la parole de Dieu. Et on sait vraiment qu'aujourd'hui, nous avons une mission à accomplir sur la terre et votre mission est directement liée à ce que les Écritures disent vous concernant. Restez avec moi. Je sais que le message est un peu différent ce matin. Mais il y a une réalité qu'il faut absolument que vous saisissiez ce matin. Et je veux que vous suiviez l'exemple. Jésus nous a dit, en fait, de suivre son exemple, n'est-ce pas? Jésus nous a donné un exemple à suivre. Et une chose qu'on sait, il y a plusieurs choses dans vos notes. Premièrement, que Jésus savait que les Écritures parlaient de lui. Donc, quand Jésus lisait la Bible, quand Jésus lisait le Pentateuque, quand Jésus lisait les prophètes, quand Jésus lisait les psaumes, il lisait pas ça juste comme une œuvre de littérature ou comme un conte de fées. Lui, il cherchait dans ses Écritures et il trouvait dans les Écritures les choses qui ont été écrites à propos de lui-même. Et je sais que peut-être à cause de votre religion et vos pensées religieuses, vous avez de la difficulté à comprendre cette partie de Jésus et de cette partie de sa vie. Mais n'oubliez pas que Jésus, il a vécu sur la terre comme un homme. Il a dû grandir comme un homme, n'est-ce pas? Et Jésus avait besoin d'étudier la Bible comme les autres garçons aussi. Moi, je ne crois pas que Jésus avait automatiquement une pleine connaissance de la parole de Dieu à sa naissance. Je ne pense pas que chaque verset de la parole était comme inscrit dans son cerveau. Il était la parole, ces choses étaient dans son esprit, on pourrait dire, parce qu'il était la parole, n'est-ce pas? Mais il avait besoin de grandir. Et lui aussi, il avait besoin de prendre le temps d'ouvrir les parchemins et de les lire. N'est-ce pas? Si ça ne serait pas le cas, on n'aurait pas pu dire que Jésus est un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. N'est-ce pas? Jésus, de son propre gré, a pris une décision de devenir semblable aux hommes. Les hommes ne sont pas omniscients. Vous êtes d'accord? Donc, Jésus avait besoin, comme tous les autres Juifs, d'étudier la parole. La différence, c'est que lui, il n'avait pas une nature pécheresse, donc il avait une compréhension, une révélation des choses que les autres n'avaient pas. C'est pourquoi, à l'âge de 12 ans, il était capable d'enseigner les adultes. N'est-ce pas? Quand même, Jésus, il avait sûrement pris le temps nécessaire de lire, pas comme ça, mais comme ça, parce qu'en hébreu, c'est de droite à gauche, de lire les parchemins et de lire le Pentateuque, les psaumes et les prophètes. Et dans ces Écritures, il trouvait les versets qui le concernaient. Que c'est merveilleux! Et qu'est-ce qu'on va dire? C'est que Jésus est notre exemple à suivre. On va juste voir quelques exemples ici. Luc 24, 44. Puis il leur dit, « Voici, réalisez ce que je vous ai souvent annoncé quand j'étais encore parmi vous et que je vous disais, il faut que tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes reçoive son accomplissement. » Vois-tu, Jésus a mis beaucoup l'accent sur l'importance de l'accomplissement des Écritures le concernant. Luc 18, 31, Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui est écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. » Jésus leur répondit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Donc, encore nous voyons, et ça c'est juste quelques exemples de combien Jésus a mis une emphase, il a mis l'accent sur le rôle des Écritures et l'accomplissement des Écritures pour sa vie. Amen? Et je suis là pour vous présenter quelque chose ce matin, c'est que si c'était vrai pour Jésus, c'est, qui est la tête de l'Église, c'est vrai pour nous qui sommes le corps de l'Église. Si la tête avait besoin d'étudier les Écritures, si la tête trouvait ça bon de même dire les choses qui ont été écrites le concernant, moi je crois, combien plus fort raison, l'Église n'a-t-elle pas besoin de faire la même chose, de sonder les Écritures, de comprendre les Écritures et de déclarer ce que dit les Écritures nous concernant. Dans vos notes, j'ai dit quelque chose, c'est que toutes les Écritures ont été écrites pour vous. Toutes. Il n'y a pas un verset dans ce livre qui n'a pas été écrit pour vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un verset dans la parole qui n'est pas utile pour votre cheminement spirituel. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile. Paul a dit ça à Timothée, n'est-ce pas? Tout le monde dit toute Écriture. C'est-à-dire tout ce qui était écrit dans la loi, dans les prophètes, et aussi dans les psaumes, aussi tout ce qui était écrit dans le Nouveau Testament, les évangiles, les épîtres, toutes ces choses ont été écrites pour vous. Même l'Ancien Testament, 1 Corinthiens 10, 11, dans vos notes, dit ceci, ces choses, et il parlait de Moïse et les enfants d'Israël dans le désert, qu'ils étaient dans le désert pendant 40 ans et qu'ils étaient suivis par un roc, et le roc était Christ, n'est-ce pas? Il a dit que toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Il faut que vous sachiez que toute la Bible est pour vous. Aujourd'hui, vous avez besoin de ça. On peut apprendre. On voit les exemples de qu'est-ce que les hommes et les femmes ont fait dans l'Ancien Testament et ça peut nous instruire. Ça peut nous aider à éviter les mêmes problèmes, les mêmes péchés, les mêmes rébellions qu'ils ont vécues. On peut les éviter parce qu'on est instruit par toutes les Écritures, n'est-ce pas? Donc, toutes les Écritures sont pour vous, mais toutes les Écritures ne parlent pas de vous. Vous savez? C'est pourquoi on ne peut pas appliquer toutes les Écritures à votre cas particulier. Il y a certaines choses qui ont été dites à une personne en particulier, on ne peut pas dire que ça c'est bon pour tout le monde. Mais, voici la chose, c'est là où, attachez vos tucs. Toutes les Écritures sont écrites pour vous, mais il y a certaines Écritures qui sont écrites à propos de vous. Et comme Jésus était capable de lire dans le Pentateuque, il disait, « Ah, ça parle de moi. » Et quand il lisait en Ésaïe 53, « Ah, ça parle de moi. » Et quand il lisait dans les psaumes, « Ah, me voici encore une fois. » N'est-ce pas? Il était capable plus tard, pendant son ministère, de dire, « Comme ça a été, ça a été écrit dans les prophètes, dans la loi, dans les psaumes, à propos de moi. » Et il avait une pleine assurance. Il savait que ça ne parlait pas d'autres personnes, mais ça parlait de lui. Laisse-moi vous dire, les versets qui parlent d'un sauveur qui va mourir pour et porter sur lui les fardeaux et les péchés du monde entier, ça, ce n'est pas un verset à propos de vous, mais c'est pour vous, n'est-ce pas? Tandis qu'il y a d'autres versets dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, vous pouvez les trouver, et surtout dans les Épîtres, qu'il y a plein des Écritures qui parlent de vous. Et vous devriez faire exactement comme Jésus. Sondez les Écritures, et à chaque fois que vous voyez un verset qui parle de vous, dites « Ah, me voici! » Ça parle de moi! Peut-être ton nom. Moi, j'ai jamais trouvé le nom Ken Taylor dans la Bible. J'ai trouvé le nom Ken Taylor sur une Bible, parce qu'en anglais, il y a un monsieur Ken Taylor qui a écrit une paraphrase. C'est pas moi qui l'a écrit, mais votre nom se trouve pas en noir et blanc. Vous êtes dans la Bible. Et c'est pas juste une théorie. Jésus n'était pas une théorie, il était le Messie en réalité, n'est-ce pas? Un véritable homme, Dieu et homme, un personnage, un vrai, mais vous êtes une personne aussi réelle que Jésus. Attends une minute. Est-ce que ton corps est aussi réel que ta tête? Ma tête est vraie, mais mon corps n'est pas vrai. Ton corps est aussi réel que ta tête. Et tous les versets qui parlent de la tête sont des véritables versets qui vont apporter une vérité affranchissante, n'est-ce pas? Mais tous les versets qui parlent du corps de Jésus-Christ sont aussi réels et qui sont destinés à produire autant de résultats. Amen? Donc, c'est pourquoi. En fait, regarde bien, certaines écritures ont été écrites à propos de vous. Oh, merci Seigneur, ouvre les yeux de notre cœur. Aide-nous à comprendre ceci. Parce que si vous comprenez cela, vous ne serez jamais plus déprimé une autre journée de ta vie. C'est comme presque impossible. Si vous vivez dans la lumière de ceci. Mais en Pierre chapitre 1 même, vous savez que Pierre a dit, aucune écriture, c'est pas écrit par la volonté d'un homme, mais les hommes de Dieu ont été poussés par l'Esprit Saint de prophétiser et d'écrire les Écritures, n'est-ce pas? Mais ici, en verset 10 de 1 Pierre, chapitre 1, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. C'est-à-dire que je veux vraiment que vous compreniez. Il y avait des hommes de Dieu dans l'Ancien Testament qui ont reçu certaines révélations, un poussé de l'Esprit pour dire les choses, écrire des choses qu'ils n'ont comme pas compris. Et ils ont commencé à faire des recherches et des investigations. Qu'est-ce que je viens de prophétiser là? Ça parle de qui et de quoi? C'est quoi cette affaire? C'est beau, c'est merveilleux, mais ça parle. Est-ce que ça parle de nous? Et regarde bien. Il dit, verset 11, « Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les Regarde bien. Tu m'en dis, c'est pour moi. Pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par l'Esprit Saint, envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. » Je ne sais pas si vous comprenez, mais les choses que les prophètes ont prophétisées par rapport à Jésus et son Église. Parce que vous savez que vous pouvez trouver dans l'Ancien Testament les prophéties concernant, pas juste Jésus, mais aussi sa famille, l'Église. Vous êtes au courant de ça, n'est-ce pas? Ne connaissez-vous pas les Écritures qui parlent de vous? Parce que l'Église, c'est vous. C'est mon Dieu, c'est moi. Et il faut que ça soit personnalisé. Il faut que vous soyez convaincus que vous êtes aussi important pour le plan de Dieu que n'importe quel autre membre de son corps. Et que toutes les choses que les prophètes dans l'ancien temps ont prophétisées, ces choses ont été prophétisées pour vous. et que même les anges, qui sont les serviteurs de Dieu, ils désirent plonger leur regard. Ils veulent comprendre, parce qu'ils ne comprennent pas comment Dieu Tout-Puissant peut se lier avec une de ses créations et devenir une seule plante avec sa propre création. Ils ne comprennent pas ça. Parce qu'ils ne sont que les serviteurs qui vont obéir à la parole de Dieu. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons la nature de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Mais la réalité, la plupart des chrétiens, si on est honnête, ils vont, dans leur pensée, les anges, Dieu est là, les anges sont là et l'Église est là. Parce que vous savez, on est des pauvres pécheurs sauvés par la grâce. Mais selon les Écritures, selon ce qui est écrit vous concernant dans les Écritures, vous êtes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Vous n'êtes plus un pécheur. Vous étiez un pécheur. Vous avez mérité l'enfer et la perdition éternelle. Mais qu'est-ce que vous avez hérité en Jésus-Christ? C'est une vie nouvelle. Et vous êtes devenu une seule plante avec le Seigneur Jésus. Il est la tête, vous êtes le corps. Jésus sera toujours plus élevé que vous, mais vous, Jésus est là et nous sommes juste là. Et les anges nous servent. Et les anges, comme, je ne comprends pas, mais j'aimerais tellement être capable de voir et comprendre. Amen? Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire avec cela? Trois choses. Premièrement, cherchez les endroits où les choses sont écrites vous concernant. Prenez le temps, cherchez les endroits. Ça me fait penser encore à Jésus. Jésus, en Luc chapitre 4, vous vous rappelez, il est entré dans la synagogue et verset 17, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé. Et n'oubliez pas que les gens qui étaient présents au synagogue ne connaissaient pas la fin de cette histoire. Tout ce qu'ils voyaient, c'était Jésus, le fils de Joseph et Marie, le charpentier qui avait... Il y a des rumeurs à propos de lui, même pas sûr que Joseph n'était pas le vrai père et on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé là. On connaît ses frères, on connaît ses sœurs, c'est le fils du charpentier. Il arrive au synagogue, il leur donne le rouleau. L'ayant déroulé, qu'est-ce qu'il a fait? Il trouva l'endroit. Il connaissait l'endroit, n'est-ce pas? Il a pris le temps de connaître cet endroit, n'est-ce pas? Vous avez besoin de trouver les endroits dans votre Bible qui parlent de vous. Mais trouvant l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Et qu'est-ce qu'il a dit? On sait qu'il a dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie au milieu de vous. Wow! Il y a tellement d'exemples comme ça. Mais vous savez, nous avons besoin de faire la même chose. Il faut dérouler notre parchemin. Heureusement, c'est encore plus facile pour nous aujourd'hui. On a des paragraphes, des chapitres, des versets. On peut facilement trouver des versets qui parlent de nous. On peut trouver les versets dans l'Ancien Testament, on peut les trouver dans les psaumes, mais pour commencer, je vous donne une bonne suggestion. Allez dans les épîtres. Allez surtout dans les lettres que l'apôtre Paul a écrites, parce que ces choses ont été écrites pour vous, mais aussi à propos de vous. Allez, juste un exemple. Je vais juste ouvrir la Bible de même, en Éphésiens chapitre 3, par exemple. Ça serait une bonne place pour commencer. Éphésiens chapitre 3. Donc, il dit, « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes, on parle des autorités et des dominations méchants, les démons et tous nos adversaires, afin que ces autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église. C'est qui l'Église? C'est nous. Et on peut être même encore plus spécifique, c'est moi. Tout le monde dit, c'est moi. Je viens de trouver un endroit où il est écrit me concernant. Et regarde bien. Aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc moi, je peux dire, merci Seigneur, que à travers moi, Seigneur, que même le diable et tous les adversaires, toutes les autorités dans les lieux célestes, ils vont connaître la sagesse de Dieu à travers moi aujourd'hui, parce que je marche dans la sagesse de Dieu. Et Christ a été fait pour moi, sagesse. N'est-ce pas? Ça parle de moi. Et quand on voit qu'est-ce que Paul a dit en 2 Corinthiens 5, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Moi, je suis quelqu'un. Moi, je suis en Christ. Donc, ça parle de moi. Je viens de trouver un autre endroit qui parle de moi. Ça parle, c'est pas pour moi, mais c'est de moi. C'est un verset à propos de moi. Je suis enfant de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Amen? Donc, cherchez les endroits. On voit que l'apôtre Paul a fait la même chose en Actes 13, 47, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Tu sais que quand l'apôtre Paul a dit cela, il était en train de citer Ésaïe, chapitre 49, verset 6. Que sûrement que l'apôtre Paul, qui était un érudit de la parole de Dieu, après avoir eu son expérience sur la route de Damas, après avoir eu une révélation du plan de Dieu, pas juste pour les Juifs, mais pour les non-Juifs, les païens, il a eu une révélation plus tard de Ésaïe 49, que, quand les prophètes, il y a des centaines d'années, ont dit que je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre, pas juste en Israël, mais juste aux extrémités de la terre, Paul a dit, ça part de moi, et ça part de l'Église. Il a trouvé un autre endroit où il était écrit le concernant. Vous avez besoin de trouver les endroits où il parle de vous. Je sais pas, mais... Et savoir que ce livre qui est le best-seller, vous savez qu'il y a un best-seller écrit à propos de vous? Vous savez que le best-seller de tous les siècles, ça parle de vous! Vous pouvez même dire à vos amis, vous savez quoi? Le best-seller, le meilleur livre qui a jamais été écrit, il parle de moi dans ce livre-là. C'est la réalité. Ça parle de vous. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que on est tellement, tellement bourré de faux enseignements, de la religion, que la plupart des gens vont lire cela et vont toujours avoir sous-consciemment, inconsciemment, même ils vont juste dire, oui, c'est vrai que ça dit ça à propos de l'Église, mais le problème c'est que vous ne faites pas la connexion que vous êtes l'Église. Ah oui, c'est vrai que la Bible dit que l'Église, Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et les portes de séjour de mort ne prévendront point contre elle. Je viens de trouver un autre endroit où il parle de moi. C'est quoi l'Église? L'Église, c'est pas un bâtiment. L'Église, l'Église universelle, l'Église locale, mais l'Église locale, c'est quoi? C'est vous. Jésus a dit, je vous bâtirai. Et les portes de séjour de mort ne vont pas être capables de tenir debout devant Céline, ou devant Yves, ou devant Marcel. Impossible! Je viens de trouver un autre endroit. Donc, cherchez les endroits où les Écritures parlent de vous. Deuxième chose, demandez au Seigneur de vous ouvrir les yeux et de vous expliquer ces Écritures. Comme Jésus a fait sur la route d'Emmaüs avec ses deux disciples, il a expliqué. Et savez-vous qu'est-ce qui est merveilleux? Que Jésus, avant de partir, il a dit, « Je vous enverrai, je ne vais pas vous laisser les autres comme orphelins, je vais vous envoyer un autre consolateur, l'Esprit de vérité. » Et il n'est pas juste avec nous, il est en nous, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit Saint, celui qui a inspiré toutes les Écritures, il habite en nous. Il est capable de vous enseigner toutes choses, n'est-ce pas? Il est capable d'ouvrir vos yeux pour que vous sachiez, ça parle de vous. Amen? On a besoin de cette révélation. C'est pourquoi Paul a prié pour les Éphésiens. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. On a besoin d'un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. N'est-ce pas merveilleux qu'on peut demander à Jésus, Seigneur, enseigne-nous, explique-nous. Comme Jésus a fait avec les disciples, il les a expliqué toutes les Écritures le concernant. Je suis convaincu que le Seigneur, si vous lui demandez, il va vous expliquer toutes les Écritures vous concernant. Seigneur, enseigne-moi les Écritures me concernant. Montre-moi qui je suis. Montre-moi, Seigneur, qui tu es. Montre-moi que nous sommes une seule plante. Montre-moi, Seigneur, je ne veux pas juste comprendre avec ma tête, mais dans mon cœur, je veux avoir une révélation de qui je suis, qu'est-ce que j'ai et ce que je peux faire en toi. Et puis, quand il vous révèle ces choses, croyez et dire ce que Dieu dit à propos de vous-même. Jésus, de toute évidence, il croyait, quand il lisait les Écritures à propos de lui-même, il croyait ça, bien entendu. Et Jésus, quand il était dans certaines situations, ne se gênait pas de le dire. Tel verset parle de moi, n'est-ce pas? Il n'avait pas honte de dire ça parle de lui. Est-ce que Jésus était en train d'être orgueilleux, de se vanter? Ou est-ce qu'il disait tout simplement la vérité? La vérité. Je vais juste vous avertir que si vous commencez à dire ce que la Bible dit à propos de vous, il y a certaines personnes qui vont avoir peut-être l'attitude de ces gens dans la synagogue, mais pour qui est-ce qu'il se prend? Je connais ce gars-là, je connais cette femme-là, ça fait longtemps que je la connais. Là, il est en train de dire qu'il est la justice de Dieu. Franchement, je l'ai vu l'année passée, je sais qu'est-ce qu'il a fait. Soyez prêts. Quand vous commencez à dire qu'est-ce que Dieu dit, il y a des gens qui vont dire, franchement, vous êtes orgueilleux. Combien de fois on pense qu'il y a des personnes qui vont dire, quand on commence à croire qu'est-ce que la Bible dit à propos de nous, ils sont arrogants. C'est l'arrogance. Il n'y a pas d'humilité à ça. Laisse-moi vous dire, c'est pas de l'humilité de dire que je suis un ver de terre et je suis juste un pécheur sauvé par la grâce et peut-être je vais vaincre. Peut-être je vais être capable de toffer jusqu'à l'enlèvement. Ça, c'est pas l'humilité. Ça, c'est l'ignorance qui, dans le fond, devrait faire mal au cœur de Dieu, qui a donné son propre Fils pour qu'on soit la justice de Dieu en Jésus-Christ. On est en train de dire, Seigneur, je sais que tu es venu, je sais que tu as pris notre place, je sais que tu es mort, je sais que tu as souffert, je sais que tu es ressuscité, je sais que tu nous as tout donné, mais ça ne change pas grand-chose dans ma vie. Ça ne vaut pas grand-chose, Seigneur. Nous, moi, non. Donc, vois-tu, ce n'est pas l'arrogance de dire, je suis la justice de Dieu. Ce n'est pas l'arrogance de dire, je suis une nouvelle création. Ce n'est pas l'arrogance de dire que même le diable va savoir à travers mon témoignage, à travers ma vie, il va reconnaître la sagesse infinie de Dieu. Comment? Parce qu'il va voir en moi Jésus. Jésus pensait avoir, Satan pensait avoir gagné quand il a cloué Jésus à la croix. Mais la Bible dit que si il aurait su, il n'aurait jamais crucifié le Fils de Dieu. Parce qu'au lieu d'avoir un Fils de Dieu, tannant, qui faisait toutes sortes de dommages à son royaume, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable et en brisant les liens et en détruisant les œuvres de Satan, au lieu d'avoir un, maintenant, il y a littéralement des milliards de chrétiens sur la terre Il y a des milliards au ciel. Alléluia. Et à chaque place où il tourne sa tête, le diable est entouré de nous. Amen. Et, alléluia. Gloire à Dieu. Oui. Laisse-moi, il devrait trouver ça bien tannant, hein? Mais tant mieux. Mais plus vous cherchez les endroits, plus vous cherchez les endroits où les choses sont écrites à propos de vous, plus vous demandez que le Seigneur vous donne une révélation de ces choses, et plus vous croyez et déclarez ces choses avec votre bouche, plus vous serez tannant pour le diable. Amen? Et plus vous serez heureux dans votre vie, et plus vous allez marcher dans la bénédiction de Dieu. Amen. Alléluia. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru et c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Alléluia. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut aller chercher, avertir les enfants qu'on va prendre le repas du Seigneur là. Mais ce matin, et si Jean-Charles peut venir au piano, j'aimerais prier. Parce que vous remarquez une chose ici. Les disciples sur la route d'Emmaüs avaient les yeux aveuglés, n'est-ce pas? Ils marchaient avec Jésus tout triste. Combien de vous marchez avec Jésus tout triste? La raison qu'ils marchaient avec Jésus tout triste, ils avaient la réponse avec eux. Ils cheminaient avec la réponse. Jésus était là avec eux, mais était tout triste, tout déprimé, tout découragé. La réponse est là. Ah. Ah. Je ne sais pas. Et même, il parle à la solution de leur problème. C'est quoi, hein? Tu n'as pas entendu? Jésus, hein? Il était supposé d'être le sauveur. Il marche avec la réponse. Mais les yeux sont aveuglés, ils ne voient pas. Et Jésus commence à expliquer les Écritures. La parole de Dieu commence à entrer dans le cœur. Et même là, ils n'ont pas tout à fait vu, non? Mais quand est-ce qu'ils ont vu? Quand ils étaient assis à table ou allongés, je ne sais pas. Vous savez, dans l'Orient, souvent, ils n'avaient pas de chaise. Par terre même. Une petite table. Mais quand Jésus était là, en communion avec eux, et quand il a rompu le pain, ils ont vu. Et là, ils ont reconnu, ah, la réponse était là tout au long. La réponse était là tout au long. Je suis certain ce matin qu'il y a quelques-uns de vous, et je vais donner une invitation à ceux qui ne connaissent pas Jésus à faire ce choix, mais il y a d'autres qui connaissent déjà le Seigneur Jésus, que dès que les yeux soient ouverts, vous allez dire, ah, Jésus était là tout au long. La réponse à mes problèmes était là tout au long, mais je ne voyais pas. Je ne connaissais pas. La réponse était écrite à propos de moi. C'est sur mon étagère, c'est sous mes bras, c'est même sous mes yeux souvent. Mais je ne voyais pas. Oh Seigneur, merci qu'enfin aujourd'hui, je vais voir que Jésus est là. Et que Jésus ait la réponse. Et je sais qui je suis en lui. Je sais qu'est-ce que j'ai en lui. Et je sais qu'est-ce que je peux faire en lui. Mais ce matin, on va prendre le repas du Seigneur. On va rompre le pain. Et ma prière pour vous ce matin, c'est qu'au moment qu'on va rompre le pain, que vous allez pouvoir ouvrir votre cœur et laisser l'Esprit Saint qui est là. Et son onction est là et fort. Sa présence est tellement réelle ce matin. Que quand on rompre le pain, vous allez pouvoir recevoir cette révélation. Vos yeux vont être ouverts et vous allez reconnaître que la solution est en vous. Et que la solution est en vous depuis longtemps. Et la seule chose dont vous aviez besoin, c'était de voir avec les yeux de la foi, d'y croire et d'agir en conséquence. Mais avant de faire cela, avec tous les yeux fermés ce matin, s'il y a quelqu'un ici présent qui dirait, « Pasteur, moi, Pour être honnête, je ne sais même pas si je suis né de nouveau. Je ne sais même pas si je vais aller au ciel après la mort. J'aimerais aller au ciel. Je crois en Jésus, mais je n'ai pas l'assurance dans mon cœur que j'ai reçu la vie éternelle. Si vous êtes ici et si c'est le cas, juste levez la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin de donner sa vie à Jésus ce matin, de devenir enfant de Dieu, d'ouvrir son cœur à Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a juste levé la main? Sinon, peut-être tout le monde ici ce matin est déjà sauvé. J'espère que c'est le cas. Dans un côté. D'un autre côté, j'aimerais qu'on amène toujours des non-croyants à l'église le dimanche matin aussi. Mais si on peut avoir les hommes, les femmes, les gens qui vont servir le repas du Seigneur, s'ils peuvent venir. Alléluia. Ce matin, on va rompre le pain. Ici, c'est un pain matza, c'est un pain juif sans levain. Probablement semblable à ce que les Juifs utilisaient pour la Pâque. Mais vraiment, qu'est-ce que j'ai dans mon esprit ce matin? C'est qu'au moment qu'on va rompre le pain, ça va être comme un point de contact pour nous, de demander, selon la parole de Dieu, c'est biblique de demander que le Seigneur nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et dès qu'on rompre le pain, on va croire que, par la foi, on va aller à un autre niveau. Je sais qu'il y a beaucoup de vous, vous avez déjà passé par des périodes où le Seigneur vous a donné beaucoup de révélations dans sa parole et vous avez compris des choses. Mais je ne crois pas qu'il y a une personne ici présente qui est arrivée à une place où on peut dire qu'on est parfait, on a une pleine compréhension. On a tous besoin de connaître davantage le Seigneur Jésus, de connaître davantage sa parole. Donc, si vous voulez commencer à servir les gens, le pain et les jus.